Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va aller au-delà du développement personnel. Elle ne se dit pas coach, elle se dit accompagnatrice de transformation. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Malika Hind, bonjour.
Salam alaikum, charfin.
Wa alaikum salam, Lala. Nahar mbrouk, hada. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Shoubarak, Lala Malika.
C'est très gentil, je suis très honorée.
Eh bien, merci beaucoup, Lala. Alors, Lala Malika, toi, tu es experte en transformation et tu aides les leaders et les entrepreneurs à incarner leur puissance et à dépasser leurs limites pour devenir la meilleure version de soi-même. Avant d'arriver
Exactement.
À ce que tu fais, moi, ce qui m'importe aussi, c'est ta trajectoire à toi. À quel moment as-tu décidé de te tourner vers les autres et d'apporter cette expertise aux autres? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours de vie?
Alors, c'est une très belle question. Je ne l'ai pas forcément décidé, ça s'est imposé à moi. Moi, j'ai un parcours plutôt entrepreneurial, c'est-à-dire que je suis une MRE, je suis née en France. J'ai créé mes propres entreprises, mon propre concept dans le bien-être et j'ai développé ça sur 5 villes différentes. Donc, j'avais 5 entreprises avec plus de 28 salariés. En parallèle, marchand de biens, j'ai créé 3 SI immobilières que j'ai encore à mon actif avec pas mal de projets immobiliers. En fait, ça a été un appel, quelque chose qui s'est imposé à moi. Initialement, ça a été plutôt percutant puisque ça a été suite à un problème de santé. J'étais beaucoup dans le faire, je ne m'écoutais pas, je ne connaissais de rien à tout cela. Et puis, cette immobilisation, on va dire, pour ne pas rentrer dans les détails médicaux.
Tu ne veux pas rentrer dans les détails médicaux? Ça te met mal à l'aise ou c'est une période que tu n'as pas envie de...
Non, pour vous l'éviter. Ah non, pas du tout.
Pas
j'en
du
parle
tout.
Très ouvertement. Alors, en fait, suite à une hernie ombilicale et diastasis,
okay.
J'ai été opérée 5 fois en 15 jours.
Oh là là.
Au niveau du ventre. Donc, ça touche le féminin sacré.
Ouais.
Aujourd'hui, avec le recul, je le comprends mieux.
Donc cette ça voulait dire quoi, à ton avis, justement? Moi, j'aime bien rentrer dans les détails, en fait. On aime bien.
Avec grand plaisir. Allons-y. Mais tu ne m'as pas dit combien de temps on avait. Il n'y a pas de souci.
On a 20 minutes, 20-25 minutes.
Ça va faire court. Alors, en fait, ce qui est simple à expliquer, c'est que j'étais dans l'énergie yang, dans le fer, l'énergie masculine. Je n'étais absolument pas dans ma place, là où Dieu m'a voulu. Donc, on m'a laissé fonctionner en dysfonctionnant. Je n'avais pas les codes pour savoir m'écouter. J'étais clairement dans la matrice, dans un système pyramidal, où j'étais dans une quête d'une soi-disant réussite. Et finalement, le fait de ne pas savoir s'écouter, le corps somatise et au bout d'un moment, il parle. Et sa façon de s'exprimer m'a touchée en plein dans le féminin sacré. Voilà.
Donc, tu étais plutôt dans ton énergie masculine, c'est ça?
Exactement.
Ok.
Tout à fait.
Ok.
Voilà.
Et ça, tu penses on est beaucoup de femmes dans cette situation, surtout aujourd'hui, parce qu'on a grandi avec les injonctions de soit une femme libre, soit une femme indépendante, etc. Et donc, pour
oui,
le
je
faire...
Je le retrouve surtout dans mes accompagnements au Maroc. C'est vrai que le hasard n'existe pas. Depuis un an et demi où j'ai voulu développer mon activité au Maroc, je me suis rendu compte que ce que j'attirais à moi, c'était des femmes qui étaient dans le même parcours erroné que j'avais dans mon passé.
Mais alors, pardon, mais sans cette énergie, tu penses que tu aurais développé tout ce que tu as développé professionnellement, tes entreprises, tes projets, tout ça?
Alors, l'idée n'est pas de détruire ou d'éteindre l'énergie yang. Le but étant de trouver un équilibre entre l'énergie yang et l'énergie yin.
Ouais.
Moi, je n'étais que dans l'énergie yang.
Ouais, je comprends.
C'est ça la subtilité.
Ouais. Et donc, cette maladie, ce problème de santé, parce que ce n'est pas une maladie, c'est un problème de santé.
Problème de santé, oui.
Voilà, te cloue au lit et qu'est-ce que ça vient te faire?
En fait, à cette période-là, je commence à sentir des odeurs, à entendre des voix. Je suis prise de peur puisque je pense que c'est paranormal. Et une fois que je vais mieux dans ma convalescence, ma curiosité prend le dessus et je commence une quête, un cheminement. Je lis, j'explore, je me fais accompagner, je vais vers des gens de ce milieu-là pour essayer de comprendre. Il faut dire que ça remonte à il y a 11 ans, même si on est en France à ce moment-là. Tout ce qui était de l'ordre du développement personnel, méditation, tout ce monde-là, n'était absolument pas encore développé ici.
Complètement.
Donc ça me pousse à partir, ça me pousse à aller rencontrer des personnes qui sont déjà éveillées et à comprendre tout ce qui se joue en moi.
Alors pardon, mais quand tu dis je sens des odeurs et j'entends des voix, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que le monde invisible devient beaucoup plus perceptible à ce moment-là, moi, dans ma vie.
Ok.
Tout simplement.
Tu as eu peur, j'imagine, parce qu'avant exactement. De parler de paranormal, on peut penser à une schizophrénie, on peut penser à ce genre de choses.
Non, parce que c'est très subtil, c'est plein d'amour.
Ok, ok.
Ce qui fait peur, c'est l'anormal, qu'on n'est pas habitué, donc effectivement, ça surprend. On en parle à nos proches, on essaie d'expliquer. Effectivement, on se demande à un moment si on est fou ou pas.
Ouais.
Mais comme ça revient avec beaucoup plus de délicatesse et d'amour, disons que ça s'adapte à notre monde, à nous.
Et ça te disait quoi ?
Finalement, ben c'était tout bête. Par exemple, j'ai eu des voix qui me demandaient d'aller à Saint-Tropez sans savoir pourquoi.
Ouais.
J'ai insisté. Et le jour où je décide de prendre la voiture pour y aller, sans savoir pourquoi j'y vais... ça se calme, ça s'apaise. Et puis, tout au long du chemin, je sens un apaisement, je vois des synchronicités, vraiment beaucoup, enveloppé de beaucoup d'amour. Donc, arrivé sur place, eh bien, là, on rencontre par hasard, même si le hasard n'existe pas, des personnes qui vont effectivement répondre à certaines questions. Et puis, c'est un chemin qui s'est amorcé, en fait, de marche par marche et qui m'ont vraiment amené à une compréhension d'un monde qui n'était pour moi absolument pas perceptible à ce moment-là.
Alors, donc, moi, en fait, quand tu parles, j'ai l'impression que c'est tout ton apprentissage entrepreneurial qu'ensuite tu as ramené dans le monde de l'accompagnement. Mais il n'y a pas que ça, finalement.
Non, c'est plutôt mon propre éveil personnel
qui
m'a forcé à travailler sur moi, à découvrir justement ce monde invisible qui est très, très vaste, plus vaste que le monde du visible. Initialement, je mène ce chemin à titre personnel, sans savoir où est-ce que ça va m'amener par la suite, à titre professionnel. Seulement, cet éveil fait qu'on change sa vision des choses. On n'est plus la personne qu'on était avant. Donc, ma dynamique n'étant plus la même, très vite, je suis poussée à lâcher prise et à complètement arrêter mes structures.
Mais en fait, pour une personne qui n'a jamais vécu ce genre d'expérience, donc moi, en l'occurrence maintenant, j'arrive pas à comprendre comment la femme que tu étais extrêmement justement dans le contrôle, dans l'énergie masculine, arrive à dire facilement j'étais poussée et donc je l'ai fait.
Oui, mais là j'en parle avec des mots.
Ouais,
mais réellement, ça a duré 10 ans dans ma vie.
Ah, ok.
Ça n'a pas été d'un coup.
C'est ça.
J'ai dû vivre des voyages spirituels assez intenses, travailler de lâcher prise, comprendre que l'échec n'existe pas, justement. Et que le regard des autres n'est pas vraiment un réel aspect de la réussite. Donc, c'est tout un cheminement qui a duré pas mal de temps. Il y a eu de la résistance. C'est-à-dire que moi-même, j'ai travaillé effectivement tout ce qui a été difficile à lâcher dans la matière, toutes les croyances, toute l'éducation qu'on a eue au niveau sociétal et archétype familial, tout ce qu'on porte en nous, pour pouvoir enfin devenir sa meilleure version.
Oui. Alors, quand tu dis « j'ai travaillé », tu t'es fait accompagner ?
Ah bien sûr, on va vite ensemble, on va plus loin, on a tout le monde besoin des autres.
Des autres. En même temps, pendant cette période où voilà, tu arrivais dans autre chose du domaine de l'invisible, et je te remercie d'en parler parce que aujourd'hui, de plus en plus de personnes, on va dire, les langues se délient sur ces expériences. Et toi, tu en parles aujourd'hui, de la même manière qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'expérience de mort imminente. Voilà. Alors que pendant très longtemps, les gens avaient vécu ça, ce genre d'expérience, sans jamais oser en parler. Aujourd'hui, au contraire,
c'était plus tabou. On parle davantage de développement personnel,
d'expérience. Exactement. Alors, pendant toute cette période-là, ton entourage, tes proches.
On m'a prise pour une folle. Même mon mari, mes enfants, le simple fait de méditer ou d'imposer de ne plus allumer la télé pour être dans le être et ne plus être dans le faire ou le brouillard de la société. Ne serait-ce qu'aller dans son propre jardin pour se recharger et prendre l'arbre dans ses bras, bien sûr que ça percute les autres parce qu'ils ne comprennent absolument pas ce qu'on est en train de vivre ou de devenir.
Oui, alors ça percute les autres, mais encore plus, j'imagine, quand tu es à la maison, tu leur dis « je prends la route tout de suite pour aller dans telle ville parce que j'ai un appel ».
Alors oui, mais j'étais déjà une femme assez engagée et libre, donc la voiture, je la prenais assez
facilement. Oui, non, je veux dire, tu peux la prendre. Non, mais comprends-moi, c'est-à-dire bien sûr que tu es une femme libre qui a monté ses projets, etc.
Mais exactement.
Ils avaient l'habitude de te voir voyager, sillonner le pays pour tes projets, pour quelque chose de, on va dire, concret. Elle va gérer ses affaires. C'est une businesswoman. Mais là, c'est pour aller se connecter à quelque chose qu'elle entend. Ça déstabilise, en fait.
Oui, oui, ça a beaucoup déstabilisé mon mari, puisque lui étant en premier plan, il ne comprenait absolument pas ce qui était en train de se jouer, même si j'avais son soutien et son écoute. Mm. Néanmoins, étant quelqu'un d'assez cartésien, je pense qu'à l'intérieur de lui, ça devait bouillonner.
Oui, oui. Mais toi aussi...
Il y avait une incompréhension.
Toi aussi, j'imagine, avant cette expérience, tu étais très cartésienne. Comment tu as accepté ?
Je pense que non. Aujourd'hui, je pense que je peux dire que dans le fond, j'ai toujours eu un côté... plutôt curieux à tout ce qui est assez ésotérique.
Oui. Alors, aujourd'hui, justement, ce que toi, tu fais, c'est, on l'a dit, tu accompagnes les personnes à être la meilleure version d'elles-mêmes. Ça veut dire quoi, être la meilleure version de soi ?
Alors, déjà, avant tout, il faut comprendre que c'est quelque chose qui s'est présenté et imposé à moi. Pendant longtemps, j'ai vécu une dualité dans l'idée de lâcher tout ce que je possédais. Ça a été très dur, je pense que ça a été la phase pour moi la plus dure, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où plus je persistais à vouloir garder mes structures parce que j'avais un certain train de vie, je subvenais aux besoins de mes parents, je ne me voyais pas de suite lâcher cet aspect matériel,
oui, oui.
D'autant plus que je me disais, si ça marche, c'est que c'est al-khair, rizq d'y aller, donc il n'y a aucun mal à continuer ça en parallèle. Mais je sentais bien qu'il y avait une distorsion, quelque chose qui me poussait à lâcher. Donc je prie beaucoup, je demandais à Dieu, essayer de comprendre justement. Et aujourd'hui, je ne peux plus parler de travail, parce que pour moi, le travail, c'est de la torture. Mmh. Je suis vraiment alignée à ma mission d'âme. C'est-à-dire que le jour où j'ai fini par lâcher, et de toute façon, je n'avais pas le choix parce qu'il fallait que je lâche, sinon ça devenait compliqué dans ma vie, tout était fait pour que je sois amenée à lâcher de toute façon. Donc j'avais beau résister, ça n'allait pas dans le bon sens. Mmh. Quand j'ai décidé de tout lâcher, pour me retrouver sans avoir justement une femme qui est dans le contrôle, sans avoir la vision, la certitude, la stratégie de dire qu'est-ce que je vais faire pour retrouver le même niveau social qu'avant, clairement. Ça a été tout un chamboulement, mais même un changement de façon de penser, de voir les choses. Donc oui, une fois que je me suis posée et que j'ai accueilli ça, il y a une paix intérieure qui m'a traversée. Une certitude comme un ressenti que j'allais déjà ou que j'avais déjà dans un autre monde, une autre dimension, atteint une réussite beaucoup plus ancrée et profonde que celle que j'avais déjà touchée du doigt dans mon passé.
Une réussite non pas matérielle, mais plus intérieure.
On peut dire qu'elle est matérielle aussi. Il y a une paix intérieure déjà qui est indescriptible, ça c'est clair, et qui est incomparable avec ce que j'ai pu vivre avant. Des croyances du moindre effort... Déjà s'aligner à l'énergie féminine, apprendre à être dans le être et recevoir sans être dans le faire, juste parce qu'on est justement aligné et ancré, on reçoit déjà. Ça a été tout un chamboulement de paradigmes, de façons de penser, de croyances limitantes. Ça a été assez dur. De traverser la nuit noire de l'âme, chez moi, elle a duré environ 7 ans.
Ah, quand même.
Oui. Oui, parce que de lâcher, ça n'a pas été facile.
Facile. Mais alors, est-ce que tu as lâché tes projets ? Ils ne t'appartiennent plus ? Ton business ne
ne m'appartiennent plus, oui.
Ça fait ?
Ah oui, oui, oui.
Et pourquoi ? Tu n'aurais pas pu faire les deux en même temps ?
Je pensais, mais non.
Ouais.
Quelque chose de plus grand me montrait que non. Voilà.
Et donc, en fait, ok, mais en même temps, il y a soi, bien sûr, la quête de soi, ça... Mais il y a aussi ce que tu as dit, c'est-à-dire la charge que tu avais, la responsabilité que tu avais de soutenir la famille, etc. Mais ça, c'est très pragmatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Quand on n'a plus le revenu pour le faire, c'est mathématique, en fait.
Oui, mais quand on pressent, quand on incarne la paix, tout est beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous aviez plein de menottes, d'engagement. C'est comme si on vous avait laissé fonctionner en dysfonctionnant. La façon peut-être dont j'avais tendance à aider mes parents n'était pas forcément noble. Elle était peut-être égoïste. Elle était là pour rechercher l'amour de l'autre.
Ouais.
ça venait travailler des blessures, justement.
Mmh. Mmh.
Voilà. Donc, on peut aider et on doit aider, de toute façon, dans notre religion, nos parents. Néanmoins, il y avait une façon de le faire. Là, c'était trop.
Mmh.
Voilà. Là, ça devenait du sacrifice.
Ouais.
Donc, finalement, ce qu'on pense qui va être difficile à lâcher prend tout son sens au moment où on le lâche. C'est au moment où on le lâche que là, on commence à y voir plus clair.
Mmh.
Et on s'apaise, en fait, à l'intérieur de nous.
Ça m'apaise de t'entendre dire ça, c'est fou. Je l'entends et ça me crée un
beau
mot.
Quelque chose qui résonne.
Il y a beaucoup de choses qui résonnent, justement, mais ouais, absolument.
Mais initialement, je ne pensais pas que ça allait m'amener à en faire une activité, si on doit appeler ça
ouais,
une activité.
Une activité, c'est ça.
Mais réellement, voilà, je l'ai vécu pour moi, ça a chamboulé ma vie, complètement, mais vraiment dans beaucoup, beaucoup de domaines. J'ai dû traverser cette nuit noire de l'âme, qui a été une loi de série, des difficultés, des dettes karmiques, enfin.
Alors, c'est quoi cette nuit noire? Qu'est-ce que tu appelles nuit noire, en fait, de l'âme?
Alors, la nuit noire de l'âme, c'est tout simplement quand on passe de la 3D à la 5D. On est coincé dans un tourbillon de la 4D. Des lois de série se répètent. C'est comme si on vivait un échec répété sur plein de domaines. Et tant qu'on n'a pas lâché prise sur tous les points, on va dire sur le curseur à 100%, eh bien, on n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel, pourrait-on dire.
Mmh. Alors, j'ai rien compris. Entre la 4D, la 5G, la 5D, la...
Eh oui, parce que là, c'est très spirituel.
Ouais.
On va dire que la 3D, c'est le monde matériel, c'est la matrice.
C'est là où on est.
Le système pyramidal.
Okay.
Ça dépend comment on le vit, mais on y est tous, effectivement.
Ouais.
Soit on est ancré dans la 3D avec certaines croyances, que par exemple, il faut travailler dur pour gagner plus, ce genre de choses.
Mm.
Quand on passe à la 5D, c'est ce qu'on appelle le nouveau monde, qui est beaucoup plus perceptible depuis la Covid, et c'est pour ça que tout ce qui est développement personnel, yoga, pilates, méditation, est devenu quelque chose de très courant, un peu un phénomène de mode.
Mm.
Mais finalement, c'est parce qu'on est en train justement de s'élever énergétiquement, et donc c'est ce qu'on appelle justement le nouveau monde, la 5D. La 5D, c'est un monde où on est beaucoup plus aligné, à notre mission d'âme, à notre ikigai, on donne plus de sens à notre vie, on n'est plus nourri par la carotte ou l'aspect financier. Du coup, on s'interconnecte différemment les uns aux autres pour s'entraider. C'est beaucoup plus collaboratif que pyramidal.
Mmh. Mais quand tu dis « je suis restée bloquée dans une série, justement, comme une loupe en fait, qui se répétait ».
En fait, quand on fait le saut quantique entre ces deux mondes, ce qui est très difficile, justement, entre toutes les résistances et tout ce qu'on porte encore en nous, on appelle ça le tourbillon de la 4D. C'est un peu le pont qui relie ces deux mondes.
D'accord. J'arrive pas à... ça vole trop pour moi, comme on dit, moi.
Ouais, alors, de façon un peu plus cartésienne, c'est quand on a beau persister sur un chemin, mais qu'il nous arrive plein de blocages, plein de résistances, plein de difficultés, plein de soucis financiers, plein de problèmes sur le corps. Tout parle, tout se met à parler, mais de façon beaucoup plus exagérée.
Oui. Mais à ce moment-là, tu disais...
De plus en plus de synchronicité.
Justement, c'est cette nuit noire de l'âme que tu as traversée pendant 7 ans, à aucun moment tu t'es dit, ben, en fait, non, ben, j'ai envie de revenir à avant, quoi. Ça ne fonctionne pas pour moi, c'est trop dur.
Mais en fait, c'est ça le tourbillon. C'est quand il y a de la résistance et qu'il y a du doute et que l'ego essaie de nous ramener vers nos anciennes croyances, mais finalement, il y a quelque chose de plus grand qui nous pousse de l'autre côté. C'est toute une dualité qui se passe en nous et qui se résonne à l'extérieur de nous, entre ce que dit le corps, ce que dit le mental, l'appel de l'âme qui est beaucoup plus fort. C'est un déchirement, en fait.
Ouais.
C'est ça, exactement, la nuit noire de l'âme.
Et la paix finale, tu l'as récupérée, tu as senti que tu y étais à quel moment?
Je ne peux pas dire que ça a été un moment, un instant T.
Okay.
Ça s'est fait et je pense que ça s'adapte à chaque âme, chaque capacité. C'est pour ça que l'éveil déjà spirituel n'est pas vécu de la même manière par tout le monde.
Mm.
Voilà. Ce n'est pas forcément un problème de santé, ce n'est pas quelque chose qui vient nous percuter dans notre vie. Ça peut être un livre qu'on lit, une rencontre. Ça arrive de façon différente pour chaque âme. Et chaque âme, effectivement, vit et supporte ce qu'elle est prête à supporter. Moi, il fallait que ce soit percutant de toute façon. Parce que j'étais quelqu'un qui était assez têtu, qui avançait coûte que coûte. Donc, je ne suis pas surprise aujourd'hui avec le recul de comprendre pourquoi c'est venu à moi comme ça. Je ne peux pas dire que j'ai atteint cette plénitude, cette compréhension du monde dans lequel on vit et qui n'est qu'illusion. à une date précise ou à un événement précis. Ça s'est fait vraiment par déconstruction à chaque stade, chaque niveau s'est installé petit à petit en moi.
Et depuis combien de temps tu es dans cette sérénité, dans cette finalement acceptation absolue de tout ce qui s'est passé dans cette nouvelle vie aujourd'hui?
5 ans, je dirais 4-5 ans.
4-5 ans. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Lalla Malikahin. C'était un plaisir de discuter avec toi. Il y a des choses qui m'ont un peu échappé, par exemple l'histoire du saut quantique, etc. J'aimerais bien qu'on consacre un épisode entier à ça, pour rentrer un peu plus dans les détails.
Mais j'avais dit que 20 minutes, c'est
ça,
très long.
Exactement.
Mais c'est vrai qu'au Maroc, on me dit ma coach, ma boussole. Alors, je ne suis pas coach, je ne suis pas thérapeute. Je travaille pas mal de thérapeutes et de partenaires au Maroc. Mais c'est vrai que moi, je viens en amont par le biais d'une mise en lumière, déjà comprendre tout ce qu'on porte. Et qui est très particulier, très différent pour chaque âme. Et à partir de là, je crée un dossier de préconisation, un peu comme une feuille de route, qui permet vraiment à chaque personne de pouvoir commencer son travail, son éveil personnel.
Ben avec plaisir. Merci beaucoup, Lalla Malika.
Merci, Yann.
Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média 1. Et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.